Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Béatification ce samedi à Palerme de Don Pulisi, prêtre sicilien assassiné par la mafia il y a 10 ans. Première visite pastorale de l'évêque de Rome ce dimanche. Le pape François se rendra pour la première fois dans une paroisse romaine, ainsi que le faisaient ponctuellement ses prédécesseurs. Et puis le pape a appelé samedi l'église à tenir ses portes ouvertes et ne pas agir comme un poste de douane, citant l'exemple des prêtres qui refusent notamment de baptiser des enfants nés hors mariage. Nous sommes souvent, a-t-il dit, des contrôleurs de la foi plutôt que des facilitateurs. Au cours d'une conférence samedi organisée par une association catholique, le pape a par ailleurs à nouveau évoqué la crise économique et le chômage, qu'il a qualifié de tache d'huile qui s'étend en Occident, faisant reculer les frontières de la pauvreté. Comme chaque samedi, nous retrouverons ensuite sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, ainsi que le commentaire de l'évangile avec le père Pascal Montavi.
La mafia, spesso tante volte devota a parole, uccise Don Pino.
Pour la première fois donc, un prêtre sicilien assassiné par la mafia et connu pour son combat courageux était béatifié ce samedi lors d'une cérémonie à Palerme en Sicile, en présence de dizaines de milliers de personnes. Le cardinal émérite de Palerme, Monseigneur De Giorgi, a représenté le pape François à cette cérémonie en présence de 40 évêques et de 750 prêtres. Un événement symbolique pour le pays en présence des ministres de l'Intérieur et de la Justice. 14 ans après l'ouverture de sa cause en béatification, Benoît XVI avait autorisé en 2012 la promulgation d'un décret sur le martyr de Don Pulisi, tué par haine de la foi. Don Pino, comme on l'appelait, prêtre de San Gaetano depuis 2 ans dans le quartier Brancaccio, très populaire auprès des jeunes pour son langage direct, avait été tué le 15 septembre 1993, le jour de ses 56 ans, d'une balle dans la nuque. Jean-Baptiste Cocagne.
Don Pulisi était détesté des parrains de la mafia pour son travail de prévention auprès des jeunes, qu'il cherchait notamment à éloigner des formes de dépendance, comme la drogue, qui conduit souvent à la mafia. Son assassinat est survenu alors que le pays était encore traumatisé par les attentats qui avaient coûté la vie l'année précédente aux juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Dans une culture mafieuse superstitieuse où l'on s'en prend peu aux religieux, Filippo et Giuseppe Graviano ont été reconnus coupables d'avoir commandité le crime et condamnés à perpétuité en 2001 et 1999. Les exécutants s'étaient vus infliger la même peine. Grigoli, tourmenté par le sourire de Don Pulisi au moment de mourir, collaborera avec la justice, de même que le chef du commando, Gaspare Spatuzza. Dans une région où les mafieux vont à la messe, la lutte du prêtre du Brancaccio, soutenue par l'archevêque Salvatore Pappalardo, a servi d'exemple à d'autres catholiques de Sicile, mais aussi de la Calabre et de Campanie. Il y a eu des hommes d'église qui se sont compromis avec la mafia, mais il y avait ceux comme Pulisi qui l'ont combattu, a déclaré samedi le maire de Palerme, Leo Luca Orlando. Pour l'évêque Vincenzo Bertolone, qui a proposé la béatification du prêtre sicilien, la mafia est une religion et pas seulement un phénomène criminel. Elle n'autorise aucune autre foi. Son martyr a été le signal d'une rupture définitive entre la Bible et le crime organisé. Quelques mois avant sa mort, Jean-Paul II, en visite à Agrigente, s'était élevé contre le pouvoir de Cosa Nostra, appelant les mafieux à se repentir et les catholiques à résister. Benoît XVI avait encouragé en 2010 ce combat et François, recevant récemment les évêques de Sicile, a souligné que les mafieux se plaçaient hors de l'Église.
Première visite pastorale de l'évêque de Rome, donc ce dimanche, solennité de la Sainte Trinité, le pape François se rendra pour la première fois dans une paroisse romaine, ainsi que le faisaient ponctuellement ses prédécesseurs, la paroisse des saints Zacharie et Elisabeth à Valle Moricana, dans le nord de Rome. Il y présidera la messe à 9h30, entouré du cardinal Agostino Vallini, qui vient d'être confirmé dans sa charge de vicaire du pape pour le diocèse de Rome, l'évêque auxiliaire pour le secteur nord, Mgr Guerino di Tora, le curé de la paroisse, Don Benoni Ambarus, et son vicaire. Au cours de la célébration eucharistique, 44 enfants recevront la communion des mains du pape, Manuela Affigi.
Sortir pour aller en périphérie, ces mots du pape François, qu'il a soin de répéter avec insistance, ne seront jamais aussi concrets que ce dimanche. La paroisse des Saints Zacharie et Elisabeth est en effet située dans la zone de Prima Porta, à l'extrême nord de Rome. Le quartier, plutôt résidentiel, offre peu d'espace de rencontre et de sociabilité. La paroisse est ainsi devenue, peu à peu, un point de référence pour les jeunes familles de la zone. Les paroisses paroissien, très investi, se prépare depuis 2 mois à cet événement, honoré d'être les premiers à accueillir l'évêque de Rome, leur évêque. L'ambiance est fébrile, l'enthousiasme palpable stimule les énergies. C'est ce que nous explique le père Ambarus, curé de la paroisse.
Ces jours-ci, c'est comme s'il y avait une espèce d'électrochoc. Il y a déjà des gens, ici à la paroisse, qui travaillent. Tant de personnes venues mettre leur temps à disposition, ne serait-ce que pour une petite heure. On a fait la répétition des chants, avec tous les enfants, tous réunis, ensemble. On a vraiment le sentiment que chacun ici prend sa petite part des choses pour préparer la venue du pape.
Joie, émotion, les paroissiens attendent aussi beaucoup des paroles du pape François, le père Ambarus.
Moi, personnellement, j'attends la présence et les paroles du pape comme une espèce de magistère personnalisé pour nous. Ces paroles deviendront, d'une certaine façon, les indications pastorales de notre communauté paroissiale pour les 5-6 prochaines années.
L'arrivée du pape est prévue pour 9h. Il présidera la messe sur l'esplanade en face de l'église. Divers espaces aménagés aux alentours sont prévus pour accueillir les nombreux fidèles qui sont attendus. Les malades et les personnes âgées prendront place, elles, dans l'église et pourront saluer le pape à la fin de la messe.
Une église avec les portes ouvertes et pas un poste de douane où celui qui cherche Jésus est éloigné parce qu'il a commis quelque erreur. Tenir éloigné les personnes, ce n'est pas du zèle et les contrôleurs de la foi ne font pas plaisir à Jésus qui veut son église ouverte à tous ceux qui cherchent de l'amour. Voilà ce que le pape a expliqué samedi matin lors de la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican en présence d'un groupe de prêtres. Et dans son homélie, le pape a aussi évoqué le Concile Vatican II et ce qu'il affirme au sujet de la foi du peuple de Dieu et de la foi des gens simples. Thomas Chabol.
Le pape François nous exhortait samedi matin à ne pas éloigner de l'Église les personnes à la foi plus simples. Et il rappelait à ce propos l'épisode de l'Évangile où Jésus réprimande les disciples parce qu'ils veulent éloigner les enfants qu'on lui amène. Jésus les embrassait, les touchait, tous, mais ils se fatiguaient beaucoup. Et les disciples voulaient l'empêcher, expliquait le pape, semblant parler un peu de lui-même en réalité, et des hommes du service de sécurité du Vatican qui ont peur de la pression des gens qui veulent s'approcher de lui lors des audiences. Jésus rappelle en effet le pape dans l'homélie de la messe de samedi matin, se mettait en colère et parfois disait « Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à celui qui est comme eux ». Le pape a alors pris 2 exemples de la vie quotidienne, notamment l'histoire de ce sacristain qui, face à un couple de fiancés qui demande d'être accompagné au mariage, leur demande aussitôt tous les certificats et leur communique le tarif des messes. Et puis cette fille mère qui demande le baptême pour son fils et à qui on oppose le fait qu'elle n'est pas mariée alors qu'elle a eu le courage de porter à terme sa grossesse. Qu'ont-ils trouvé ? Porte close a poursuivi le pape. Et loin d'être du zèle, cela éloigne du Seigneur, cela n'ouvre pas les portes. Et ainsi, lorsque nous sommes sur ce chemin, dans cette attitude, nous ne faisons pas du bien aux personnes, au peuple de Dieu. Jésus a institué 7 sacrements et nous, par cette attitude, nous en instituons un 8e, le sacrement de la douane pastorale. On se comporte trop souvent comme des contrôleurs de la foi, poursuivit le pape, alors que nous devrions être des facilitateurs de la foi des gens. C'est une vieille tentation, celle de nous approprier un peu du Seigneur, lançait le pape. Les enfants qui veulent aller vers Jésus, a-t-il commenté, expriment la foi du peuple de Dieu. C'est une foi simple, c'est une foi peut-être sans beaucoup de théologie, mais avec une théologie à l'intérieur qui ne se trompe pas parce qu'il y a l'Esprit Saint. Le pape François a alors cité la constitution Lumen Gentium qui affirme que le peuple saint de Dieu ne peut se tromper en croyant. Et pour expliquer sa pensée, le pape ajoutait « Si tu veux savoir qui est Marie, va trouver un théologien et il t'expliquera bien qui est Marie. Mais si tu veux savoir comment on aime Marie, tourne-toi vers le peuple de Dieu qui te l'enseignera beaucoup mieux. »
La crise économique et sociale rend encore plus urgent de repenser et remettre en lumière la vérité et l'actualité du magistère social de l'Église. Déclaration du pape ce samedi matin au Vatican. François recevait en audience les membres du Centesimus Annus, réunis ces derniers jours à Rome pour un congrès international. Pendant 2 jours, ils ont réfléchi sur un thème qu'ils perçoivent comme une priorité pour le XXIe siècle, à savoir repenser la solidarité pour l'emploi. Une priorité également pour le pape François. Le compte-rendu, cette fois de Marie Duhamel.
Ce n'est plus le Sud qui a un problème, mais le monde entier. Le manque, la perte de l'emploi, le chômage est un phénomène qui fait tache d'huile et accroît de manière préoccupante les confins de la pauvreté. Le constat est dressé par le pape François en personne, or il le souligne, il n'y a pas, selon lui, pire pauvreté matérielle que celle qui prive une personne de son gagne-pain, qui la prive de la dignité du travail. Dès lors, repenser la solidarité ne doit plus être conçue comme une simple assistance à l'égard des plus pauvres, mais dit-il, comme la reconsidération globale d'un système pour le réformer et le corriger afin qu'il soit cohérent avec les droits fondamentaux de l'homme. Pour le pape, la crise n'est pas qu'économico-financière, ses racines sont éthiques et anthropologiques. Suivre les idoles, le profit, l'argent, les placer au-dessus de la personne humaine est devenu, regrette-t-il, une norme fondamentale de fonctionnement, un critère décisif d'organisation. On a oublié, on oublie encore qu'au-delà des affaires, de la logique du marché, il y a l'être humain et quelque chose lui est dû en vertu de sa dignité profonde, explique François. On devrait lui offrir la possibilité de vivre dignement, de participer activement au bien commun. Nous devons, conclut-il, remettre l'homme au centre, revenir à une vision plus éthique des activités et des rapports humains, sans jamais avoir peur de perdre quelque chose.
Et comme chaque samedi, passons en présent au Livre pour Dieu. Sœur Catherine Aubin retrouve cette semaine Didier Rance et son vagabond de Dieu, John Bradburn, appelé aussi le bouffon du Christ et le troubadour de la Vierge Marie. Interrogé par Catherine Aubin, Didier Rance continue cette semaine de nous faire entrer dans l'intimité de cette personnalité hors du commun, en nous parlant de ses innombrables voyages en Europe, de son indéfectible joie, de son intense prière et de son attachement peu commun à la Vierge Marie. Pour écrire la biographie de John Bradburn, Didier Rance, historien de formation, a parcouru l'Europe et l'Afrique à la rencontre de ceux qui ont connu une des figures les plus fascinantes et attachantes de sainteté et d'humanité du XXe siècle. Ordonné diacre de rite byzantin en 85 pour le diocèse de Metz, tertiaire franciscain comme son héros, Didier Rance a été volontaire dans le tiers-monde, directeur de l'aide à l'Église en détresse. Il est aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment sur les martyrs de notre temps. Écoutons-le.
Didier Rance, vous venez d'obtenir le Grand Prix catholique de la littérature en ayant écrit une biographie, la biographie d'un homme très étrange, très exceptionnel, John Bradburn, le vagabond de Dieu. On sent à travers la lecture de votre livre, de sa biographie, que c'est un homme extrêmement joyeux.
Oui, ah oui, tout à fait. Beaucoup me l'ont dit, un des lépreux m'a dit, mais à partir du moment où il est mort, qui est parti, mais on te dit, comment on pourrait encore être joyeux, oui. Il rayonne la joie, ce qui veut pas dire que lui, il a toujours, hein, il a des nuits, il a des épreuves, il a des tentations, il a un problème avec l'alcool qui résoudra quasiment 15 jours avant d'être assassiné, mais beaucoup qui l'ont connu, même brièvement, m'ont dit, mais c'est, non seulement il rayonnait une joie qui était la sienne, mais il nous disait quelque chose sur Dieu. Jean Vanier, qui a écrit une préface, il m'a dit, et puis il a même écrit là, mais John, il m'a révélé, non seulement sa vie, mais aussi un Dieu merveilleux, plus bon, plus intelligent, plus créatif qu'on ne peut l'imaginer.
Comment expliquez-vous qu'il ait été un tel marcheur ? Toute sa vie, il marche, il pèlerine, il est, vous dites, un vagabond de Dieu.
À sa conversion. Donc ce garçon qui a beau être le fils d'un révérend anglican, n'avait rien de religieux, c'était un héros de la Deuxième Guerre mondiale, et au moment où effectivement il marchait dans la brousse, il ne marchait même plus parce qu'il était en train de mourir, il était soutenu par son capitaine, et à ce moment-là il a eu une certitude intérieure qu'il y avait Dieu, et comme il l'a écrit après, à partir de ce moment-là je me suis dit, chercher Dieu et l'ayant trouvé, le faire partager aux autres, ça devait être toute ma vie. Et il a commencé effectivement à marcher dans tous les sens du terme, y compris pour rentrer dans l'Église catholique, puis à travers diverses recherches de vocations religieuses. Et puis, par exemple, il a traversé toute l'Europe deux fois. Une fois, il a vécu pendant un an dans la tribune d'orgue d'une église en Italie du Sud. Une autre fois, donc, il a marché largement à travers l'Europe pour aller jusqu'en Terre Sainte, où il a passé en fait un week-end seulement. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce fou du Christ avait un grand amour pour le peuple juif. Quand vous aimez deux personnes, vous êtes content quand les deux personnes s'entendent bien. Et il a eu cette idée, il ne pensait même pas en termes de conversion, il disait ça serait bien quand même que les Juifs ils sachent que Jésus est leur roi. Et alors, il a appris par cœur les Lamentations de Jérémie de Couperin et il est allé les chanter devant le mur de Jérusalem en disant de Dieu, si tu veux que les murs remontent pour montrer que Jésus est le roi, tu le fais, sinon c'est pas grave, ça s'est pas fait, ça se saurait. Et puis il est reparti le lendemain, gentiment, d'ailleurs dans un bateau au milieu d'un troupeau de moutons.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit de lui, c'est le bouffon du Christ roi, mais aussi qu'il était l'époux de la Vierge Marie. Ah, il a eu une vision de Marie, en tout cas il a eu des grandes perceptions de la Vierge Marie.
Tout à fait, et il a une attitude vis-à-vis de la Vierge Marie, qui est en fait celle de saint du Moyen-Âge, un mélange de familiarité filiale, et puis il a fait un vrai mariage mystique, c'était un moment où c'était très fréquent dans l'Église, parce que pour lui, Marie, c'est notre maman qui nous conduit à son fils. Il passait des nuits entières à écrire des poèmes sur Marie, sur Jésus, et alors aussi sur la Trinité, c'est aussi, même on peut dire, un théologien trinitaire.
Et vous, Didier Rance, comment vivez-vous maintenant ce compagnonnage avec John Bradburn ?
C'est, à travers lui, c'est toujours le visage de notre Dieu, le visage de Jésus, le visage de la Vierge qui se précise et qui vit vraiment, ça vaut vraiment le coup de les chercher, de les suivre. En fait, chez les lépreux, John a trouvé ce qu'il a cherché toute sa vie. Servir Dieu, servir les pauvres, servir Dieu dans la prière, servir les pauvres. Pendant la journée, il était complètement avec ses lépreux et il passait la plupart de ses nuits en fait en prière.
Et passons la parole à présent au Père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche. Évangile selon Saint Jean 16, 12, 15. Jésus disait à ses disciples « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter ».
Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité, un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Comment tenir une profession de foi qui affirme en même temps un Dieu unique et trois personnes divines? Avec l'aide de l'évangile de ce jour, nous allons essayer d'entrer un peu plus dans ce grand mystère. Tout d'abord, il est important de réaffirmer que la foi catholique est une foi en un Dieu unique. C'est un monothéisme. Ainsi, Jésus dit « Tout ce qui appartient au Père est à moi ». Et à propos de l'Esprit Saint, Jésus explique que ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il redira tout ce qu'il aura entendu. Comme le dit le livre du Deutéronome, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, lui et nul autre. Cette première affirmation nous fait faire un premier pas dans la vérité et la liberté. Il n'existe aucune autre puissance à qui nous devrions être soumis. Le démon, les astres ou les pouvoirs de ce monde n'ont aucun droit sur nous. Par le baptême, nous sommes rachetés de la mort et nous sommes nés de nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. En ce jour de la fête de la Trinité, il est important que nous puissions proclamer notre libération vis-à-vis de toute idole qui parfois nous étouffe et nous coupe de Dieu. Un Dieu unique en trois personnes. Ce qui caractérise la personne divine est d'être en relation. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Cette formulation, un peu compliquée, il est vrai, veut nous dire que les trois personnes divines se définissent avant tout par leur relation. Mais cette relation n'est pas sans lien avec l'humanité. Si Dieu est relation, il souhaite faire de l'homme son interlocuteur. Toute l'histoire de la Bible, de la Genèse jusqu'à nos jours, témoigne de cette recherche divine d'entrer en relation avec l'homme. C'est lui qui cherche Adam au jardin d'Éden, qui envoie les prophètes à son peuple Israël, qui envoie son Fils au milieu des hommes et enfin qui répand en abondance son Esprit Saint. La mission de l'Esprit Saint est de faire connaître le salut que Jésus nous a acquis. C'est pourquoi l'évangile du jour nous dit « L'Esprit Saint reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître ». Si les personnes divines se définissent par la relation qu'elles ont entre elles, il est donc important de rappeler que ce mystère nous concerne, nous les hommes. Nous sommes appelés à participer à cette vie trinitaire, à être en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si notre prière s'adresse uniquement au Père, ou au Fils, ou à l'Esprit Saint, elle est incomplète. Il est bon de nous poser cette question. Quelle est la personne de la Trinité que je prie le moins ? Je peux alors saisir l'occasion, en ce jour de la Sainte Trinité, de compléter ma prière en m'adressant tout particulièrement à cette personne divine que je connais moins. Enfin, si la Trinité veut entrer en relation avec nous, c'est aussi pour nous apprendre à vivre les uns avec les autres, ou mieux encore, à nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous a aimés. En vivant ce commandement de notre Seigneur, nous découvrons de manière concrète ce qu'est la Trinité. Par l'unité avec nos frères et sœurs, nous découvrons l'unité de Dieu en trois personnes.
Ainsi prend fin ce magazine. N'oubliez pas notre page internet www.radiovaticana.va et puis Facebook, bien sûr, à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.